Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Comme toujours, ça nous fait tellement plaisir que vous soyez au rendez-vous, surtout aujourd'hui pour notre épisode bonus. On n'a pas de recette de cocktail pour aujourd'hui, mais on vous invite fortement à aller vous inspirer soit de notre page Instagram ou de notre page TikTok pour des recettes de cocktails. Et pendant que vous y êtes, suivez-nous et n'oubliez pas aussi d'aller nous donner une note sur Apple Podcasts, Spotify, 5 étoiles. Comme d'habitude, ça nous aide énormément et on vous en remercie beaucoup. Maintenant, je vais laisser la place à Jess avec la première histoire d'aujourd'hui.
Gypsy Rose Blanchard, qui a marqué l'imaginaire et le monde du true crime en juin 2015 après avoir ordonné l'assassinat de sa mère abusive, a fait surface dans les médias après sa libération le 28 décembre 2023. La jeune femme a partagé avec beaucoup de bonheur sa nouvelle relation dans laquelle elle affirmait être très, très heureuse. Mais il y a quelques semaines, Internet en entier a été complètement choqué lorsque Gypsy a annoncé se séparer de son mari Ryan qu'elle a épousé lors de son séjour en prison. Le 22 avril 2024, ils ont officiellement affirmé que la relation était tellement tendue entre les deux qu'ils refusent de se rencontrer afin de filmer le documentaire prévu sur la vie après l'incarcération de Gypsy Rose. Un dossier clairement à suivre.
Mes sources pour ma première histoire sont UPI Archives et Investigation Discovery. Malheureusement, il va toujours y avoir des cas de true crime qui vont être plus bizarres les uns que les autres. Le genre d'histoire qui te laisse la bouche ouverte et qui te fait répéter sans cesse pendant quelques minutes « What the fuck? » Eh bien, en voici un de ces cas, dont l'arme du crime est, oui, assez unique, mais aussi on possède tous cet objet. Évidemment, cette histoire se passe aux États-Unis, pas en Floride cette fois par exemple, mais à El Paso, au Texas. Je nous transporte en 1986, un lieutenant arrive sur une scène de crime. Les seules informations qui lui sont disponibles sont qu'un homme âgé non identifié est décédé, son corps se trouvant dans une ruelle et qu'il y a seulement un témoin. À son arrivée, le témoin, une jeune femme de 25 ans, est complètement ivre et dans un état de confusion totale. Son nom, Grace Todd. Évidemment, elle n'est pas en mesure de répondre aux questions du lieutenant. D'ici à ce qu'elle dégrise, le policier analyse la scène de crime. La victime est mince. Il y a du sang sur l'avant de son chandail, sur son visage. Il n'y a pas de traces de blessure par balle ni de coup de couteau, mais il trouve que les orbites autour de ses yeux semblent étranges. Le policier met donc des gants et il ouvre l'œil droit de la victime. Le globe oculaire n'y est pas. Il ouvre donc l'œil gauche. Même résultat. La victime n'a aucun globe oculaire. Ils ont été retirés. Donc la victime n'a pas d'yeux. En plus de ça, la bouche semble pas tout à fait correcte non plus. Le policier regarde la bouche de la victime et ses lèvres semblent légèrement saillantes. Doucement et avec prudence, il ouvre la bouche et à l'intérieur s'y trouve un œil. Dans ses mots, il a dit, et je cite, « C'est dégoûtant, c'est révoltant, c'est effrayant, c'est bizarre, c'est tout à la fois. Son œil me regarde depuis sa bouche. C'était presque suffisant pour me pousser à bout. » Fin de la citation. La victime se nomme Vern Roger Cave, âgé de 62 ans au moment des faits, un vétéran avec des, malheureusement, problèmes d'alcool. Après enquête, le détective trouve d'autres témoins, dont un gérant de magasin ayant vu un homme conduire un pick-up noir dans la ruelle la nuit précédente. En continuant son travail, le détective apprend que Vern a deux colocataires, Grace Todd, qui était en état d'ébriété et présente sur la scène à son arrivée, ainsi que le mari de cette dernière, Gary Todd. Pouvez-vous deviner qui est propriétaire d'un pick-up noir? Évidemment, c'est Gary, le mari de Grace Todd. Par contre, après enquête, il s'est avéré que Gary Todd a été rayé de la liste des suspects. L'enquêteur, par contre, ne reste pas les mains vides parce que un nouveau témoin clé au nom de Jeffrey s'ajoute à la liste des témoins. Le soir du meurtre, une femme étrange, selon ses dires, est venue frapper violemment à sa porte en hurlant « Ouvrez la porte, j'ai besoin de votre téléphone. » Jeffrey lui a répondu qu'il n'en possédait pas, on est en 1986, on se rappelle, et ce à quoi la femme a hurlé « Je viens de tuer quelqu'un. » La description de la femme donnée par le témoin est étrangement familière. C'est exactement la description de la colocataire de la victime, Grace Todd. Pendant son interrogatoire, elle a rapidement craqué et a hurlé « Ok, ok, je lui ai arraché les yeux parce qu'il m'a touché sexuellement. » Le eye gouging ou le gougeage de yeux, c'est une technique d'autodéfense où l'attaquant tente de causer des dommages à l'œil de son adversaire en le frappant, en le griffant ou en y insérant ses doigts. C'est une technique qui est extrêmement dangereuse et potentiellement mortelle, souvent utilisée en situation de légitime défense lorsque la vie de la personne est en danger. Cependant, en raison de sa dangerosité et de ses conséquences potentiellement graves, son utilisation est généralement découragée, sauf en cas d'extrême urgence. Bref, Grace Todd a donc utilisé cette méthode-là pour arracher les yeux de Vern, mais si, à part ces blessures-là, Vern n'avait aucune autre blessure, comment est-ce qu'il est décédé? Eh bien, Grace Todd a enfoncé les yeux de Vern dans la bouche de ce dernier et, avec ses propres yeux bloquant ses voies respiratoires, il est décédé par asphyxie. L'arme du crime était donc les propres yeux de la victime. La meurtrière a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et a été condamnée à 16 ans de prison. Encore une fois, je passe le micro à Jess pour sa deuxième histoire.
Au Brésil, cette semaine, une caissière dans une institution financière a eu toute une surprise. Un individu s'est présenté avec un homme en chaise roulante et lorsque vient le temps de signer les papiers pour un prêt monétaire d'une assez importante somme, la caissière remarque que le monsieur dans la chaise roulante a l'air fatigué. Il ne bouge pas, ne répond pas. Après enquête, on réalise que l'homme dans la chaise roulante était décédé. Une femme brésilienne a traîné son oncle décédé à la banque pour lui faire signer un prêt.
Les sources pour le deuxième cas d'aujourd'hui sont le Journal de Montréal et le New York Post. Faraj Alaharour était en train de se baigner à Cuba. Il profitait tout bonnement d'un beau moment avec sa fille Myriam lorsque tout bascule. Dans l'eau, Faraj fait un malaise cardiaque. Myriam hurle à l'aide, mais il n'y a personne qui vient. Elle réussit de peine et de misère à traîner son père jusqu'à la rive et constate qu'il n'y a aucun sauveteur, aucun médecin pour aider à sauver son père. Ce qui devait arriver arriva. Son père décède sur la plage et les autorités cubaines prennent alors la décision d'étendre le corps de Faraj sur une chaise longue au gros soleil de Cuba pendant 8 heures. Si vous pensez que c'était le pire, bien non. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Arrivée au pays, la famille entame les démarches auprès de l'ambassade du Canada à La Havane afin de pouvoir rapatrier le corps de leur père et de lui offrir les funérailles dont il mérite. À ce moment-là, on leur annonce que pour le déplacement du corps, ils doivent débourser la modique somme de 10 000 $. Encore une fois, est-ce que vous croyez que le cauchemar est terminé? Le corps a bel et bien atterri à l'aéroport Montréal-Trudeau le vendredi 20 avril tel que prévu, mais la dépouille dans le cercueil n'est pas celui de M. Faraj Alaharour. Il s'agit plutôt du corps d'un homme russe, dépouille qui, elle, a été renvoyée auprès des proches du défunt. La famille, complètement endeuillée, n'arrive pas à obtenir des réponses d'Affaires mondiales Canada ni du cabinet de Justin Trudeau. À ce jour, la dépouille de leur père est perdue quelque part entre Cuba et le Canada.
À Oklahoma, aux États-Unis, un homme a été reconnu coupable d'avoir assassiné son meilleur ami. Mais la raison pour laquelle il affirme avoir assassiné son meilleur ami, on va juste dire que ça dépasse l'entendement. Il affirme que, alors que son meilleur ami et lui étaient en train de pêcher, activité qu'il faisait quand même assez souvent, soit-il dit en passant, il a ressenti que son meilleur ami avait une intention bien spécifique. Il sentait que son meilleur ami comptait le tuer afin de le nourrir au Bigfoot. Cet ami a alors ressenti la menace, a enroulé ses doigts autour du cou de son meilleur ami, lui a enlevé la vie et affirme qu'à ce moment-là, il a levé les yeux de sur la barque et qu'il a observé une horde de Bigfoot qui était en train de l'observer. Bien évidemment, la défense de l'homme américain a tenté de plaider l'aliénation mentale, ce qui n'a pas fonctionné, et cet homme va prendre le chemin de la prison, en espérant qu'il ne va pas tomber sur Bigfoot dans l'établissement carcéral.
On va maintenant passer au dernier cas de cet épisode et la source pour ce cas est Wikipédia. Le dernier cas d'aujourd'hui, c'est celui de Katarzyna Sawada, âgée de 23 ans, une étudiante de Pologne. Le 12 novembre 1988, elle devait se rendre à un rendez-vous médical qui était à 18h où sa mère devait la rejoindre, mais la jeune femme ne s'est jamais présentée au point de rendez-vous, suite à quoi sa mère a signalé sa disparition à la police. Le 6 janvier 1999, donc oui, plus de 10 ans plus tard, un conducteur de tugboat a découvert quelque chose qui s'était coincé dans l'hélice du bateau pendant la nuit. Ce qu'il a trouvé en ouvrant l'écoutille de l'hélice était ce qu'il a décrit comme étant pâle et ressemblant à un sac avec une odeur nauséabonde qui en émanait. Un tugboat, ou remorqueur en français, c'est en effet un type de bateau spécialement conçu pour aider d'autres navires en les poussant, en les tirant ou en les guidant dans les ports, les canaux ou d'autres voies navigables où la manœuvrabilité est limitée. Pour en revenir au cas, la confusion s'est transformée rapidement en horreur lorsque le conducteur et son équipage ont commencé à démêler la masse non identifiée et ont remarqué que le matériau en forme de sac avait une oreille humaine. Les autorités polonaises ont collaboré avec des experts ADN et ont déterminé que la peau appartenait à Katarzyna. Une semaine après la découverte de la peau et de l'oreille, des plongeurs de la police ont découvert la jambe droite de Katarzyna et un morceau de sa fesse à un barrage hydroélectrique plus haut sur la Vistule. Malheureusement, la tête de Katarzyna n'a jamais été retrouvée et ils ont seulement retrouvé quelques articles de vêtements en plus de ça. La police a rapidement conclu que la peau retrouvée s'agissait d'une combinaison de peau que quelqu'un avait créée avec la peau de Katarzyna et qui avait l'intention de porter. Peu de temps après la découverte de la peau de Katarzyna, un autre incident horriblement similaire s'est produit à Cracovie. Un homme âgé malvoyant a appelé la police et a affirmé qu'un meurtre avait eu lieu chez lui et qu'il était sûr qu'il avait été commis par son petit-fils Vladimir V. La police est arrivée et a découvert que, il avait assassiné et décapité son père et a porté la peau de son père, en particulier son visage, dans la maison. La police espérait initialement avoir trouvé l'assassin de Katarzyna. Vladimir était également étudiant dans la même université où elle avait étudié. Avant que Katarzyna n'étudie la religion, elle étudiait la psychologie comme Vladimir, bien qu'il y ait commencé le cours un an avant elle et l'ait abandonné avant qu'il le termine. Malheureusement, cette connexion-là a mené à une impasse parce que Vladimir a été expulsé vers la Russie pour purger sa peine de prison et n'a jamais avoué l'avoir tué. Il a même affirmé ne l'avoir jamais rencontré. Malgré que de l'ADN ait été découvert sur la peau de Katarzyna, aucune correspondance n'a été trouvée aux personnes d'intérêt de la police et rien n'a non plus été découvert lors de l'examen d'une liste de délinquants sexuels connus. À la fin de l'année 2000, l'affaire était restée inachevée. C'est seulement 12 ans plus tard que l'élément de preuve suivant fut découvert. En fait, l'unité des affaires non résolues des forces de l'ordre polonaise avait exhumé la dépouille de Katarzyna et découvert des traces d'une espèce végétale rare, ce qui leur a permis de déterminer plus précisément l'endroit où le crime aurait pu être commis. L'équipe des affaires non résolues, connue sous le nom d'Archives X, a profité de cette avancée pour faire connaître l'affaire au public, où elle a ensuite été aidée par des médecins légistes américains et portugais. Le FBI a aidé à établir un profil psychologique du tueur et a déterminé que Katarzyna avait probablement été violemment battue avant d'être torturée et malheureusement écorchée vive. Katarzyna serait morte après avoir perdu trop de sang et aurait tragiquement été en vie lors de plusieurs des actions de son assassin. La gravité des coups infligés à Katarzyna a conduit les enquêteurs à croire que son tueur était doué en arts martiaux La personne en question aurait, selon eux, possédé un caractère sadique et aimerait harceler les femmes. Le 4 octobre 2017, Robert Chwosinski a été arrêté par la police polonaise pour le meurtre de Katarzyna. Initialement, il était le suspect principal, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'arrêter à l'époque et depuis, ce dernier affirme son innocence. En 2022, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Katarzyna. Sa famille continue encore à ce jour de prétendre son innocence et le verdict repose sur des preuves circonstancielles sans rien de concret. Katarzyna Kłoda était connue par ses amis comme une jeune femme timide, calme, aimante et gentille. Elle adorait le groupe Grateful Dead et elle était une grande fan de romans, de science-fiction et de fantasy. C'est ainsi que se termine notre épisode bonus cette semaine.
Retrouvez-nous très bientôt à
Crimi Cocktail.
Cheers, guys!
Chin chin!